de paix sur RCN.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un contexte mondial de guerres multiples, de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence sur toute la planète, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Parole de paix est réalisé par un groupe d'associations nancéennes. Il y a le mouvement de l'objection de conscience, Survie Lorraine, l'association France-Palestine Solidarité, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, les éditions Kairos, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et Amnesty International, groupe de Nancy. Autour des micros, cette semaine, nous sommes avec la Ligue des droits de l'homme, avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Nous sommes aussi avec Amnesty International. Bonjour Marie-Jo.
Bonjour.
Et nous avons des invités. Alors, un membre du comité international de défense des femmes afghanes, Jean.
Bonjour.
Bonjour Jean. Et nous avons également quatre invités qui nous viennent d'Afghanistan. Je vais les appeler dans l'ordre. Je vais dire bonjour à Armadia.
Bonjour.
Bonjour Armadia. On a à côté d'Armadia Massoma.
Bonjour.
Bonjour Massoma. On a Soman.
Bonjour
Soman et Sakina.
Bonjour
Sakina. Parce que cette semaine, le dossier de Parole de paix sera sur la situation des femmes afghanes, leur situation et leur défense. Ça sera le thème de cette émission. Comme d'habitude, et pour ne pas changer les habitudes, nous commençons toujours l'émission Parole de paix par des brèves. Et nous allons parler... c'est moi qui prends la parole. Donc Stéphane, pour le mouvement de l'objection de conscience, je vais vous parler de la fin du service national universel. Le SNU, dans Parole de paix, nous avons fait sur les dernières années plusieurs émissions sur ce service national universel. C'est la marotte du président Macron qui voulait mettre au pas la jeunesse de France avec des stages militarisés, assez virilistes et sous les drapeaux et en chantant la Marseillaise. Eh bien, on est content après des années de lutte contre cette ignominie. Qui est de mettre des jeunes en uniforme, les mettre en chantier patriotique. Le Sénat, le 16 janvier dernier, a décidé de couper les vivres, couper le budget. Bon, c'est pas pour des questions, j'en faisais remarquer, c'est pas pour des questions politiques que le service national va être arrêté, ou en tout cas suspendu, mais c'est bien pour des questions de budget, d'argent, et ils cherchent de l'argent de tous les côtés. Mais à notre avis, ils ne savent pas où aller le trouver. Mais nous, on saurait où aller le trouver, cet argent. Donc le service national universel est suspendu, faute de crédit. Donc c'est une bonne nouvelle pour les jeunes générations qui n'auront pas à se faire enrôler par ce système très militariste. Voilà pour le SNU. C'était une bonne nouvelle. Une nouvelle un peu moins bonne, parce qu'il y a aussi des nouvelles moins bonnes. Alors, c'est que l'INSEE a décidé d'essayer d'un peu de fouiller dans la vie des Françaises et des Français un peu plus, aux dépens de nos libertés.
Oui, alors c'est une information qui concerne tout le monde, parce qu'il s'agit du recensement de la population qui a démarré la semaine dernière. Et parmi les questions posées, il y a plusieurs questions qui sont assez intrusives. Et notamment, une des questions qui a retenu notre attention, c'est qu'on demande aux personnes qui sont recensées le pays de naissance des parents. Et donc, plusieurs organisations, comme dont la LDH, appellent à ne pas répondre à cette question.
Oui, c'est une question facultative pour l'instant.
C'est une question facultative, oui, c'est ça. Donc, on peut tout à fait ne pas y répondre. Alors, ces organisations rappellent que le recensement est un bien public et y participer soit est un acte civique, mais aucune politique publique ne justifie que l'origine immigrée de nos parents soit collectée dans notre bulletin individuel. Et cette question, bien évidemment, présente énormément de dangers. Et on peut considérer que l'enregistrement de cette information est un pas, malheureusement, vers une possible inégalité de traitement par l'État sur cette base-là.
Surtout dans la situation politique actuelle de la France, qui court, comme bien des pays dans le monde, vers une forme de fascisation, je vais le dire.
Oui, c'est ça, ou d'ostratisation des migrants, donc, de manière générale. Ouais.
Donc ces gens-là sont friands de chercher des boucs émissaires, et donc veulent aller regarder, veulent aller fouiller. Donc on dit aux auditeurs, aux auditrices, si on vous interroge, ne donnez pas l'origine de vos parents, ça ne les regarde pas.
Voilà, on peut tout à fait le droit de ne pas répondre à cette question.
Troisième brève, en janvier de 2025, c'était les 50 ans de la loi Veil, la loi légalisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse en France. Marie-Jo, tu nous en touches deux mots?
Oui, deux mots, un peu plus quand même. C'était le 19 janvier 2025, le 50e anniversaire. Et donc, c'était Amnesty trouvait important de le rappeler. Rappeler aussi que le 8 mars 2024, il y a eu l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Donc ça, c'est quand même des votes qui sont historiques. Et je me permets de rappeler... Une citation d'Agnès Calamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International. Ce vote historique revêt une importance considérable compte tenu du recul de ce droit essentiel à travers le monde. La protection de la liberté d'accès à l'avortement constitue un rempart important contre les mouvements anti-droits de plus en plus virulents. Donc, Amnesty est un mouvement qui considère que toute personne a droit à des droits. Et donc, en particulier les femmes, pour cette notion d'IVG. On va parler des femmes afghanes. Elles n'ont pas ce droit-là, et elles n'ont pas le droit d'être considérées comme des êtres humains. Donc, Amnesty se devait d'être là pour essayer de défendre les femmes afghanes.
Merci. On retrouve des informations aussi sur le site d'Amnesty?
Oui, tout à fait.
Alors,
si je peux rajouter juste quelque chose, Amnesty demande une approche plus inclusive, soit garanti non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes transgenres et aux personnes non binaires. Donc, d'étendre quand même ce droit en France à des personnes qui, selon Trump, n'existent pas.
Oui, c'est vrai que la situation internationale, on ne va pas parler dans cette émission de ce qui s'est passé en janvier aussi.
J'ai pas pu m'en empêcher.
Oui, mais il faudra faire une émission sur l'extrême droite dans le monde entier, en France aussi bien sûr, mais aussi ce qui arrive aux États-Unis d'Amérique. Sans transition, moi je vais parler de la Palestine et je vais parler de cette forme de cessez-le-feu, pour lequel on ne peut que se réjouir, mais en même temps être très vigilant. Donc il y a eu un accord de cessez-le-feu qui constitue une lueur de soulagement pour les familles des otages israéliens et pour la population palestinienne victime d'un génocide à Gaza. L'accord trouvé entre Israël et le Hamas a commencé à entrer en vigueur le 19 janvier 2025. Le cessez-le-feu tant attendu ne réparera pas les vies brisées, nous dit aussi Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International sur le site d'Amnesty International France. Mais, ne pas oublier que durant un an et trois mois, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés dans leur chair, leur habitat détruit et leurs familles décimées, et qu'ils et elles ont été déportés et attaqués sur les lieux mêmes de leur déportation. Ne pas oublier que notre président, ses ministres et les députés qui lui sont inféodés ont justifié le massacre des enfants, la traque et la terreur, l'utilisation de la famine et autres crimes de guerre. Ne pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, les discours des promoteurs de la paix ont été sifflés soufflé par ces mêmes godillots au moment de prononcer le terme approprié et que le monde entier sur la scène humanitaire et diplomatique internationale s'accorde à utiliser pour qualifier ce qu'il se passe en Palestine occupée, un génocide. Amnesty a également fait un rapport, je crois que c'est le dernier rapport officiel, où il y a eu l'ONU, il y a eu toutes les grandes instances internationales pour qualifier ce qui se passe, ce qui se passait d'un génocide en direct avec les portables, un génocide du 21e siècle. Ne pas oublier que les médias des multimilliardaires, autant que ceux du service public, ont été les promoteurs propagandistes du génocide et de l'occupation, et qu'ils le sont encore. Ne pas oublier que des citoyennes et citoyens français et des visiteurs étrangers ont été interpellés et verbalisés pour avoir porté un kéfier. Qui pour avoir porté un kéfier? Qui l'image d'une pastèque? Ne pas oublier l'instrumentalisation du mot antisémitisme, du mot antisémite, pour insulter, pour diffamer celles et ceux qui défendent pacifiquement la paix. Ne pas oublier aussi les gardes à vue assortis d'accusations d'apologie du terrorisme pour faire taire, en vain, les voix qui ont dénoncé en France le génocide. Ne pas oublier qui, à l'Assemblée nationale et sur les plateaux, ont porté haut et fort la voix de la raison et brandi le drapeau palestinien et quels députés ont sans relâche dénoncer l'immonde traitement fait aux Palestiniennes et Palestiniens. À Nancy, autour de la FPS, nous avons été nombreux à répondre, toujours présents, les associations qui sont autour des micros notamment, pour dénoncer ce qui se passe. Et ce cessez-le-feu est un soulagement, mais c'est également, il faut faire bien attention que, voir si ça dure, voir également si tout ce qui doit être fait va l'être. Notamment, Amnesty International dit par exemple qu'après 15 mois de feu, il n'y a plus de temps à perdre. La communauté internationale doit garantir l'accès à l'aide humanitaire pour sauver la population à Gaza, la reconstruction des hôpitaux et autres infrastructures essentielles, la libération de tous les otages détenus à Gaza, la levée du blocus à Gaza, l'accès à des observateurs des droits humains indépendants à Gaza et la justice pour les victimes. La justice, ça veut dire que les mandats d'arrêt courent toujours, malgré le cessez-le-feu, et qu'il faut les appliquer. Et il faudra faire, nous en France, mettre la pression sur nos élus. Voilà pour un point sur la Palestine. Et on va terminer ces brèves avec un moment de culture. Philippe, homme de culture à la libre pensée. À la libre pensée, excuse-moi, à la Ligue des droits de l'homme.
La libre pensée aussi.
Ouais, donc Philippe, tu vas nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu à Nancy.
Oui, c'est un spectacle à Vendeuvre, plus exactement, oui. Donc je vais vous parler du spectacle Abyss au pluriel, qui est un spectacle de théâtre qui va avoir lieu donc au CCAM le mardi 28 janvier à 19h et le mercredi 29 janvier à 20h, donc c'est à la scène nationale de Vendeuvre, au CCAM, comme je l'ai dit. C'est un spectacle qui est mis en scène par Alexandra Tobelem, qui est par ailleurs aussi directrice du Centre dramatique national de Thionville, et qui a travaillé en fait ce spectacle sur des récits de migrants naufragés, particulièrement en Italie, en tout cas dans la Méditerranée, mais qui ont rejoint l'Italie par Lampedusa. C'est un spectacle vraiment très plein d'humanité, et face à cette espèce d'indifférence sur la situation des migrants naufragés, la performance d'acteur de Solal Bouloudnin est immense. C'est vraiment magnifique. C'est un spectacle avec beaucoup de force, beaucoup de ferveur, et qui parle de ce drame universel. Et le spectacle, le mardi soir, mardi 28 janvier à 19h, c'est aussi pour ça que j'en parle, sera suivi d'une rencontre-débat avec plusieurs membres d'associations qui aident les migrants sur Nancy, en présence, bien évidemment, de la metteuse en scène et de l'acteur principal. Voilà.
Très bien, donc tu rappelles la date, c'est...
Donc mardi 28 janvier à 19h, on peut voir le spectacle aussi le lendemain, le 29 janvier, le mercredi à 20h, Et donc, il est vraiment vivement conseillé de réserver auprès du CCAM. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas les moyens et qui sont étrangers, ils peuvent s'adresser à la Ligue des droits de l'homme pour avoir ce qu'on appelle des exos, c'est-à-dire des places gratuites pour pouvoir rentrer et voir ce spectacle.
Donc, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty aussi, pas beaucoup mobilisé sur Nancy sur la question des migrants, RESF également.
RESF, un toit pour les migrants, Médecins du Monde, voilà.
Et on rappelle que tous les derniers samedis du mois, de chaque mois, à 15h, place Stanislas, il y a un cercle du silence où toute la population nancéenne est invitée à venir marquer son respect, son admiration et son soutien profond aux migrants.
Aux migrantes et aux migrants, oui. Donc il y a des temps de parole, mais aussi beaucoup d'échanges. Et puis il y a un temps de silence relativement long qui peut durer parfois jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes, mais qui est vraiment nécessaire dans cet endroit qui est la place Stanislas. Donc vous pouvez nous rejoindre, effectivement, pour le prochain samedi, c'est-à-dire le 25. Janvier.
En janvier, ça sera un 25. Oh, oui, d'accord. Et puis tous les derniers samedis du mois.
Tous les derniers samedis du mois, quel que soit le temps.
Oui, c'est vrai. 15h, place Stanislas. Ben justement, notre émission de cette semaine, nous allons parler de ce qui arrive en Afghanistan, aux Afghans, et notamment aux migrants d'Afghanistan, parce que ça va être le dossier de cette semaine. Et donc, avant le dossier, tu nous proposes, Philippe, une petite pause musicale.
Je propose une petite pause musicale. Alors, je vais juste la présenter avant qu'on lance la musique. Alors, c'est un ensemble musical qui est exclusivement donc afghan, qui est exclusivement composé d'une trentaine de musiciennes, donc uniquement des femmes. C'est l'orchestre Zora. Dont le nom, en fait, est d'après la déesse persane de la musique, qui a été créée en 2016 en signe de résistance et de soutien aux femmes afghanes. Zora porte leur voix de l'exil. Et l'orchestre, c'est un formidable mélange, comme vous allez l'entendre, d'instruments occidentaux classiques, mais aussi d'instruments traditionnels. Donc on trouve des violons, des trompettes, des violoncelles, mais aussi des roubabs, des sitars, des tablas. Et sur scène, en fait, il faut les voir, on peut facilement les retrouver sur Internet. Les visages sont souriants, ils sont fiers. Et donc, elles jouent aussi bien de la musique classique occidentale. On peut entendre, par exemple, du Bach, mais qui est mixé avec de la musique traditionnelle afghane. Et on peut les retrouver. Ce que je conseille, c'est d'aller les écouter sur France Musique, qui est une très bonne radio aussi du service public. On peut retrouver ce groupe en concert, parce qu'il y a des concerts qui ont été enregistrés. Et puis aussi sur Arte, où il y a un magnifique documentaire qu'on peut encore voir qui s'intitule « Des musiciennes contre les talibans ». Et donc on va écouter un morceau de leur répertoire qui s'intitule « Sakina ». Thank you.
11h midi, Parole de paix sur RCN.
On retrouve Parole de paix soit en direct ou soit en podcast sur le site rcn-radio.org, mais quand on l'écoute en direct, c'est 90.7. On retrouve Parole de paix dans la rubrique Société. On peut retrouver les podcasts et on peut également retrouver les émissions sur la chaîne YouTube de RCN. Cette semaine, notre sujet, c'est les femmes d'Afghanistan, leur situation et leur défense. Philippe, tu commences à introduire.
Je peux introduire le sujet et puis ensuite, on enchaînera les uns les autres. Alors, il se trouve que. Pour dire le point de départ, en fait, de pourquoi aussi cette émission, c'est parce que dans le cadre des permanences de la Ligue des droits de l'homme, la permanence des droits, qu'on donne deux fois par semaine sur Nancy.
On peut redire rapidement.
Alors, on peut redire, oui, c'est donc tous les mercredis soirs, à partir de 17h à la Maison Bonnet, 4 rue du Moulin de Boudonville. Et puis tous les vendredis soirs, sauf pendant les vacances scolaires, là, à la MJC. Des Forges, 27 rue de la République à Nancy.
MJC Des Forges, les vendredis et mercredis, Maison Bonnet, qui est dans un petit parc,
le parc Bonnet, qui est une maison municipale et qui est partagée avec d'autres associations.
Donc lors d'une de ces permanences. Donc,
voilà, lors de ces permanences, il y a effectivement des familles afghanes de Nancy qui sont venues nous voir pour savoir comment elles pouvaient faire dans le cadre d'une démarche de regroupement familial pour faire venir des membres de leur famille, particulièrement des femmes. Là, actuellement, on en suit 4, voire même 5. Et on va voir que cette démarche, en fait, est extrêmement compliquée, alors qu'elle devrait être vraiment très simple, parce que les femmes afghanes, comme on va le voir, sont persécutées dans leur pays, mais aussi dans les pays voisins. L'État français condamne régulièrement l'action des talibans, mais sur le terrain, c'est vraiment tout autre chose. Ces femmes ne peuvent pas rejoindre leur famille en France, parce qu'elles sont bloquées pour des questions de visa. On va voir vraiment dans le détail comment ça se passe, alors que les familles ont toutes obtenu un statut de réfugié. Ces familles, elles sont vraiment très très courageuses. Elles font vraiment tout le nécessaire pour s'insérer pleinement dans notre société, mais elles sont très très inquiètes, pour leur sœur, pour leur épouse, pour leur cousine qui est retenue contre leur gré en Iran, afin d'obtenir des visas. On verra pourquoi que c'est en Iran d'ailleurs que tout ça se joue. Nous en parlerons tout à l'heure de manière un peu plus précise. Mais pour démarrer l'échange, moi, je voudrais qu'on brosse un peu un portrait des conditions de vie terribles que vivent ces femmes en Afghanistan, déjà dans leur pays, depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. Et je vais passer la parole à Jean du Comité international de défense des femmes afghanes. Si tu peux nous brosser un peu l'actualité. Comment ça se passe.
Oui, merci Philippe. C'est effectivement une situation extrêmement grave menée par ce régime réactionnaire, obscurantiste et discriminatoire que le régime des talibans. Ça vise à les invisibiliser totalement en leur déniant tous les droits les plus élémentaires. Je vais en citer un certain nombre. Le droit d'exercer un métier, en particulier travailler dans les hôpitaux, et c'était utilisé ça pour dénier le droit à l'accès aux soins des femmes, puisqu'il n'y aurait que des hommes et pas de femmes, mais on leur interdit aussi de travailler dans les hôpitaux. Le droit de sortir seule dans la rue, dans les jardins publics, de parler à l'extérieur de chez elles. Le droit à l'instruction, quasiment tous les degrés. Le droit à l'accès aux soins, le droit à l'avortement. Le droit de se vêtir selon leur goût, le droit, bien sûr, de choisir leurs options métaphysiques, c'est-à-dire choix d'une religion ou pas, le droit de refuser les mariages imposés et de choisir leur compagnon ou sa compagne, le droit de refuser les violences conjugales et d'en être protégé, le droit de participer à l'éducation de leurs enfants à égalité avec leur père. Voilà cette situation, plus, bien sûr, les prisons, plus les tortures psychologiques, les tortures physiques, les viols. Et on ne sait pas, comme l'ont montré plusieurs associations, dont notamment Amnesty International et le mouvement spontané des femmes afghanes, dont le Comité international de défense des femmes afghanes est en relation permanente et qui a demandé la création de ce comité international, eh bien, on ne sait pas combien de femmes, effectivement, sont actuellement en prison, torturées, ont disparu. Voilà, c'est une situation inimaginable.
Merci Jean. Peut-être...
Peut-être demander à Jean, juste après cette introduction, comment on peut joindre le CIDFA, le Comité international de défense des femmes afghanes. T'as un site ou un...
Oui, alors il y a un site international en plusieurs langues, anglais, français et espagnol, je crois. Et il suffit d'écrire sur un moteur de recherche « Comité international de défense des femmes afghanes ». Et puis, il y a un mail local, parce qu'on n'est pas une association, mais on relaie tout simplement. Alors, c'est sans accent, bien sûr, « Comité 54 défense femmes afghanes @gmail.com ».
Voilà. Donc, « Comité 54 défense femmes afghanes ». gmail.com. D'accord, merci.
Oui, puisqu'on a la chance d'avoir Soman et Massoma et puis leurs parents avec nous. Moi, je voudrais demander à Soman, qui peut être traduit. Alors, je voudrais juste vérifier qu'on a bien en direct Madi qui est interprète et qui va pouvoir traduire ce que va nous dire Soman. Et puis, je crois que pour les auditeurs aussi, c'est important d'entendre votre langue. Qui est très belle aussi à l'oreille. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est des conditions de votre arrivée en France, quand vous avez quitté votre pays, j'imagine avec beaucoup de peine aussi, même si vous étiez très très en danger. Mais est-ce que tu peux nous dire la manière dont ça s'est passé et puis comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en France, et puis ensuite on parlera de ta sœur.
Bale, salam khouba sen.
Salam.
Khouba sen, salam. خب اینا سوال کرد گفت که خودت وقتی که از افغانستان بیرون شدی چه رقم تجربه ته بگو با اینکه وطن ته ترک کردی دردآور بوده ولی از چی طریق از چی را چه قسم برآمدین و چطور تا فرانسه رسیدین و چطور گذشت خوب گذشت خراب گذشت چطور بود
باشه ما فامیل هستیم که پدرم با همکاری با فرانسویا وقتی که طالبا به افغانستان آمدن و اونا گفته بودن که هر کسی کمکاری با فرانسوی ها و هر خارجی ها کده باشن اونا را ما زنده نمیمونیم. و بعد از اینکه طالب آمدن و فرانسوی ها و پدرم یکی میل روان کردن که شما را نقل مکان میکنیم به فرانسوی ها. و پدرم با سه فرزندش که زیر سن بودن اونا توانستن که بیان به فرانسه و یک خواهرم که بالای سن بود و او نتونست که بیاید چون نزدیک چندین دفعه پدرم زیر تحت تعقیب بود و چندین دفعه به خانه ما طالبا آمده بودن و چون ما از خانه پیش از این میفهمیدیم که طالبات من در تعقیب پدرم هستن ما چند روز پیشش که از اونجا برآمدیم باز چندین بار به خانه مادر ما بر ما همسایه‌های ما گفتن که یعنی به خانه شما طالبا آمده بودن و شما را زیر تحت تعقیب بودن یعنی تعقیبتان میکردن باز بعد از اینکه ما حتی در فرانسه هم که رسیده بودیم چندین دفعه رفته بودن به خانه قارب ما پرسان کرده بودن که اینا کجا هستن
موا کم جو سوی افغان کم جتی آن افغانستان پس که مون پر ترابایی ان کولابوراسیون اوک لی فرانسی دونک Les talibans ciblaient les personnes qui avaient collaboré avec les étrangers, y compris les Français, et qu'on avait reçu des messages de la part de la France que la France peut nous accueillir. Et après, on avait trouvé des lettres de menace par les talibans, mais après on était obligé de... quitter notre propre domicile et se réfugier chez des connaissances, des amis, parce que après les talibans sont venus, ils ont fouillé notre domicile plusieurs fois et que on a compris que notre vie est bien en danger. Et après, mes parents avec moi, ma sœur et mon frère, les trois enfants qui étaient mineurs, donc avec les parents, la France nous a bien accueillis. Mais par contre, j'avais une sœur qui était majeure, mais elle est restée toute seule en Afghanistan et qu'après, elle a rencontré des difficultés. Mais voilà, quand on était là-bas, c'était très, très difficile. Mais bon, après, on a réussi quand même, par l'aide de la France, on est arrivé en France.
و مدت 11 ماه شده که خواهرم در فرانسه در ایران هست و بسیار با مشکلات های سخت رو برای هست و مثلا که برازو متانم خانه گرفته نمیتونه به بس درستی و براحتی رفته نمیتونه که یک چیز بگیره از ترس از اینکه جواز اقامه نداره از ترس از اینکه دوباره او را به افغانستان روانه کنن و اگر او را به افغانستان روانه کنن به دلیل از اینکه پدرم هم کار بوده با فرانسوی ها من پیشترم دلیلش را گفتم شاید او را به قتل برسانه یا بکشنش.
Pour le moment, ma sœur se trouve en Iran, ça fait à peu près 11 mois. Elle attend toujours son visa pour la France, mais la vie est trop compliquée pour elle. Elle ne peut pas bien circuler dans les villes, dehors, donc presque enfermée, parce que si les autorités l'arrêtent, ils l'envoient vers l'Afghanistan. Et qu'après en Afghanistan, c'est sûr, parce que mon père était quelqu'un qui avait travaillé avec les Français, les talibans l'arrêtent et c'est fortement probable de l'assassiner.
Philippe. Non. C'est à moi de chercher un mot.
Tu cherches un mot. Madi, d'ailleurs, au passage, je voudrais remercier Madi qui est au téléphone et qui est interprète. Mais.
Nous avons dit que nous avons dit que در ایران مانده و بدون سرنوشت است بدون از اینکه 3 سال شده از وطن خود دور است از فامیل خود دور است از مهر محبت مادر خود دور است و از اونها خواهش میکنیم با صادر نبودن ویزا بر از او را با آغوش مادرش برگرداند و از فراغ که ما از اونو میکشیم و او از ما فراغ میکشد باید از این را به پایان برسانند و ما را یک فامیل بکنند.
Et pour le moment, je demande de l'État français concernant ma sœur qui souffre là-bas en Iran en attendant pour son visa. Et pareillement, nous ici, parce que ça fait 3 ans qu'elle est loin de sa propre famille, nous aussi, je demande de l'État français de nous aider et de nous aider que ma sœur puisse nous rejoindre ici. Et c'est tellement douloureux qu'une fille toute seule, donc pendant 3 ans loin de sa famille, donc elle va pas bien. Donc je demande encore et j'insiste de la France de nous aider et qu'on soit ensemble pour délivrer le visa pour ma sœur.
Alors peut-être que c'est le moment aussi d'expliquer quelles sont les démarches en fait à faire pour obtenir un visa, qui sont extrêmement compliquées et évidemment aussi de notre point de vue à la fois inexplicable de la part de l'État français, mais aussi terrible, puisque on peut considérer que l'État français met ses femmes en danger de mort en Iran et aussi en Afghanistan si elles y retournent, parce que même l'ambassade de France à Téhéran a même dit à certaines femmes femme. Mais dans l'attente de votre visa, ne vous inquiétez pas, retournez dans votre pays et puis on vous fera signe quand votre visa sera prêt, ce qui est absolument inintelligible et insupportable.
Il faut peut-être préciser qu'il n'y a pas d'ambassade de France à Kaboul.
Oui, alors j'allais le préciser parce que pourquoi est-ce qu'on passe par l'Iran ou le Pakistan, mais le Pakistan est un pays encore moins sûr que l'Iran, parce qu'il y a des femmes qui ont essayé de passer par le Pakistan, ça a été absolument terrible. Donc l'Iran est un tout petit peu plus sûr, mais pas plus sûr que ça. Alors, la démarche pour demander un visa pour venir en France dans le cadre d'un regroupement familial, la seule possibilité, c'est de passer par l'Iran et de faire une demande de visa sur une plateforme numérique qui s'appelle France Visa. Alors déjà, la plateforme numérique France Visa, c'est extrêmement compliqué pour remplir les informations qui sont dessus et il faut absolument prouver en fait une adresse en Iran pour pouvoir demander ce visa. Donc déjà, les femmes qui sont bloquées en fait en Afghanistan doivent déjà réussir à avoir un visa iranien, ce qui est quand même pas simple. C'est ce que se rappelait Soman. C'est coûteux, etc. Il faut trouver un hébergement en Iran, un hébergement sûr, plus ou moins sûr, en sachant qu'il y en a de moins en moins. On sait aujourd'hui en plus que l'Iran se trouve aussi, à un moment donné, coincé dans le conflit israélo-palestinien. Donc ça complexifie un peu les choses. Une fois que la demande est faite sur cette plateforme France Visa, qui est juste petit aparté, mais qui est une plateforme privée, c'est le même type de plateforme, en fait, même type de société que les péages d'autoroute. Donc cette plateforme privée, au moment où on a fait la demande pour Suzanne, donc la sœur de Soman, il se trouve que les salariés de France Visa, en fait, étaient en grève contre leur employeur. Il y avait un conflit social au niveau de l'entreprise, donc ça a pris aussi pas mal de retard. Et là, une fois que la demande est faite, on attend. Il n'y a qu'une solution, c'est d'attendre. Donc plusieurs mois. Au moins 5 mois dans ce cas-là. Grâce à la préfecture, on a pu avancer le premier rendez-vous qui est un entretien préalable qui se déroule à l'ambassade de France, on a pu l'avancer d'un mois. Donc pour être vraiment très précis, en fait, Suzanne a eu son rendez-vous fin septembre. Et depuis fin septembre, où on lui a pris ses empreintes, on l'a photographié, on lui a demandé des renseignements, parce qu'en fait, il faut prouver tout un tas de choses. Et entre-temps, il y a des questionnaires à renvoyer, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a aucun numéro de téléphone pour joindre quelqu'un au service visa de l'ambassade de France à Téhéran. On peut correspondre que par mail, où on reçoit des réponses sous la forme d'un message robot. À chaque fois, c'est complètement déshumanisé. Donc tout se fait par mail. On imagine bien que c'est extrêmement compliqué, parce que les personnes, pour correspondre par mail, par exemple, nous, on a trouvé des astuces pour pouvoir fonctionner. Mais du coup, la personne se retrouve très rapidement en situation irrégulière, ce qui expliquait Soman, en Iran. Et peut être, à tout moment, être arrêtée par la police iranienne et reconduite à la frontière. Et il y a même pire que ça, puisque le service des visas de l'ambassade de France met en garde, les femmes et les hommes qui demandent des visas pour venir en France contre tout un trafic qui existe en Iran, où il y a des Iraniens qui sont payés par les talibans pour donner des faux rendez-vous, pour faire croire aux gens qui vont avoir leur visa dans un bureau qui est proche de l'ambassade de France à Téhéran. Et donc ils piratent les portables, ils piratent les mails, etc., puisqu'ils envoient des faux mails et des faux SMS en leur faisant croire qu'ils vont avoir leur visa. Les personnes se présentent et là, les personnes sont reconduites directement à la frontière en Afghanistan et au passage, ces affreux se font payer, quoi. Voilà. Alors, une fois que tout ça s'est fait, une fois que ça se questionnaire, qu'il y a eu ce rendez-vous préalable, cet entretien, en fait, il faut encore attendre. Et comme l'expliquait Soman, ça fait donc 11 mois que Suzanne, elle attend là-bas, dans un pays où elle est en danger permanent. En permanence, même si à un moment on a trouvé un peu des amis qui ont pu l'aider un petit peu sur place.
Voilà, ça coûte extrêmement cher aussi aux familles parce qu'il faut loger, il faut les loger, etc. Et elles ne sont pas à l'abri en fait d'une agression. C'est un véritable trafic humain en fait qui existe en fait à cause de ces demandes de visa. Et dernière précision, on peut plus demander de visa d'asile. C'est-à-dire qu'on demande simplement un visa long séjour classique, comme si on allait faire presque du tourisme en France, quoi. Voilà.
Là, oui. Jean. Oui. Alors, je m'excuse, c'est encore l'interprète. Si oui. Je peux rajouter quelque chose, que peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça va, voilà.
Tout à fait.
Être diffusé, c'est que ce que moi je vois, parce que je suis sur le terrain, parce que voilà, je suis interprète et je vois avec les exilés tout ça. Donc, il y a une, selon moi, une grande injustice pour même la délivrance de visa de la part de l'État français et surtout l'ambassade. Parce que moi, je connais des familles, des personnes, que même les personnes, surtout les hommes isolés, plusieurs qui sont venus en France, qui même, voilà, n'avaient pas fait quelque chose de particulier, même n'étaient pas en danger. Par exemple, il y a des personnes, des hommes, voilà, avec leurs familles nombreux, même les cousins, cousines, je ne sais pas comment ils sont arrivés, voilà, à avoir le visa. Mais par contre, qu'il y a des filles, même comme il y a l'exemple de sœur de Soman, qui a une seule fille, on sait la situation des jeunes femmes en Afghanistan, même en Iran, et que quand, surtout, il n'y a pas de visa valable. Donc, pour eux, il n'y a pas de visa, mais voilà, il y a, après, un tas de personnes qui, même au nom de youtubeurs ou journalistes, qui même n'étaient pas, je ne sais pas, une semaine ou un jour, ou qui étaient apparus dans les médias ou sur YouTube, tout ça, ils se présentent en disant que, voilà, ma vie est en danger, ils reçoivent très vite le visa, mais les gens qui méritent vraiment sont en attente et après quelques fois ça termine par un drame, hein, parce que comme l'ambassade dit quelque chose quelquefois que vous pouvez ici on sait que la situation est compliquée, vous pouvez retourner en Afghanistan une fois que le visa c'est prêt, on va vous faire un signe, mais il y avait des personnes que à cause de la situation en Iran, ils ne pouvaient pas rester longtemps et c'était obligé de retourner en Afghanistan comme ça, par hasard, mais qui était arrêté par les talibans, qui étaient torturés, emprisonnés, même assassinés. Donc là-bas, il y a une grande censure par les talibans, personne ne peut lever la voix, mais il y a des filles, des femmes qui régulièrement sont arrêtées, même violées, de manière très très sauvage et tapés, torturés et leurs cadavres sont confiés à leur famille et que là-bas culturellement comme d'une part le régime ne laisse pas les gens à lever leur voix, d'autre part il y a culturel que quelqu'un qui est, je m'excuse, violé, torturé, tapé, mourir voilà, sur les coups, ils peuvent pas oser d'annoncer aux gens parce que c'est quelque chose qu'ils considèrent être dévalorisé dans la société. Voilà. Mais malheureusement, il y a une grande catastrophe qui existe malheureusement en Afghanistan, mais ici, on parle pas beaucoup. Mais si on parle, après, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... Voilà, voilà. C'est mon propre témoignage.
Merci, Madi.
Oui, merci, Madi.
Oui. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que là, il y a une responsabilité importante de tous les gouvernements des puissances occidentales, on va dire, des grands pays, dont le gouvernement français. En effet, n'oublions pas que la Cour nationale du droit d'asile, suite à l'avis d'ailleurs de la Cour européenne de justice, a émis un avis qui est le suivant. L'ensemble de ces constatations, donc la situation en Afghanistan, a conduit la Cour à juger que les femmes et les jeunes filles afghanes qui refusent de subir ces mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu'elles sont de sexe féminin sont fondées à obtenir le statut de réfugiées. Suite à ça, donc le mouvement spontané des femmes afghanes a envoyé une lettre au ministre Barrot à l'époque des Affaires étrangères et de l'Europe, et donc le, qui a été relayé par l'antenne française du Comité international de défense des droits afghanes, et annoncé, grâce à plusieurs associations dont la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, ASPS, AFPS, Lorraine, etc., le syndicat des avocats de France. Donc il y a eu une intervention au niveau de la préfecture en présentant des cas précis. Donc on a été reçu le 13 novembre, donc, en donnant un nombre de cas précis que l'on connaissait d'une part du mouvement spontané des femmes afghanes et de la Ligue des droits de l'homme, effectivement, pour dire, eh bien, il faut résoudre ces cas. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse
de la préfecture de Meurthe-et-Moselle,
et donc certainement nous allons collectivement continuer à exiger des réponses et des solutions pour ces personnes-là.
Merci, Jean.
Voilà, je voudrais parler, donner la parole à, à Massoma.
Oui,
Oui. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez offerte afin qu'on puisse faire entendre notre voix. Et puis, j'avais de la chance pour pouvoir arriver en France avec ma maman lors de la prise de pouvoir des talibans. Grâce aux lettres des autorités françaises donnant l'autorisation de se rendre en France. Et puisque nous avons travaillé avec l'organisation de Médecins sans frontières et que sa branche a été attaquée en 2021 par l'État islamique, et cependant notre vie était en danger. Et tout d'abord parce que lors d'arriver ces derniers, ils ont réussi à obtenir notre document. Et bah, du coup, les autorités françaises ont décidé de nous envoyer ces deux lettres afin qu'on puisse nous sauver.
Oui, puisque peut-être si tu peux aussi nous dire, quand vous êtes arrivés, toi et ta maman, en 2021, il n'y a que vous qui avez pu partir, mais que le reste de la famille, en fait, est resté bloqué. En Afghanistan, peut-être si tu peux expliquer aux éditeurs ce qui s'est passé.
Oui, bien sûr. Malheureusement, nous avons demandé si notre famille peut venir avec nous en France, mais les autorités françaises nous ont indiqué que cela ne marchera pas parce que vous êtes assez nombreuses et les deux lettres ne sont que pour deux personnes. Et après être arrivé en France, vous pourriez faire une demande de réunification familiale. Et bah, du coup, après avoir passé 2 ans, je crois, on a réussi de faire la demande de réunification familiale et que le reste de notre famille sont arrivés en 2023 en France.
D'accord. Et puis, là, actuellement, pour vous, c'est Habiba qui est bloqué, qui est bloqué en Iran, qui est sur la parenté, n'est pas directement rattaché à la famille, mais qui fait partie complètement de votre famille, parce qu'elle vit dans votre famille depuis 1992, d'après ce que je sais.
Oui.
Et là aussi, ça crée aussi des difficultés, parce que, c'est-à-dire pour faire une réunification familiale, il y a déjà eu une demande qui a été faite, mais enfin, elle n'a pas pu, en fait, accompagner ton papa et tes frères et sœurs, alors qu'elle est venue en Iran pour demander un visa.
mais que les autorités françaises, en fait, ont refusé parce que c'est sur le lien de parenté, en fait, c'est ta cousine.
Oui.
Voilà. Alors qu'elle fait complètement partie de la famille. Donc là, on voit aussi que il y a une véritable aussi discrimination, en fait. C'est-à-dire que c'est l'État français qui choisit. Bah, cette femme-là, oui, elle peut venir. L'autre, elle peut pas venir, etc. Et c'est absolument
avec ses propres critères.
Avec ses propres critères, oui, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Et ça, c'est absolument insupportable. Et elle nie même la manière dont ça se passe en fait dans les pays, mais ça on le voit aussi pour d'autres migrants, c'est-à-dire que bien évidemment on n'établit pas dans tous les pays des papiers d'adoption comme on le fait dans nos pays, etc. Enfin, et puis les papiers en plus souvent ont été perdus parce qu'il y a eu des bombardements.
Oui.
Et ça, voilà, c'est. Enfin, ça, je traduis bien ce que.
Ah oui, bien sûr. Pour clarifier un petit peu, ma cousine n'avait que 8 ans lorsqu'elle a perdu ses parents dans un bombardement pendant la guerre civile en Afghanistan. À partir de ce moment-là, mon père s'occupait d'elle comme sa propre fille.
Bah oui.
Et bah du coup, culturellement, en Afghanistan, on n'établit pas, par exemple, les démarches d'adoption. C'est ça.
Voilà, donc du coup, il y a pas de papier, il y a que le récit de vie qui permet ça, et en fait, c'est ce qu'on a fait tout ce travail-là ensemble, et c'est douloureux à chaque fois aussi de pouvoir réexpliquer tout ça parce que les personnes revivent aussi, voilà, ces moments. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'État français, qui par ailleurs fait régulièrement en fait des communiqués en disant on défend les femmes afghanes, on dénonce la politique des talibans, etc. Ouais. Mais qu'en réalité sur le terrain c'est absolument pas le cas, quoi.
Et ça, aucun acte. Ils ne font aucun acte.
Voilà.
Ouais. Et ben c'est assez phénoménal. Moi, c'est vraiment. On est un peu bouche bée devant ces témoignages. On sait qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler les Afghans en France. Tout à l'heure, Philippe parlait d'une émission sur Arte ou à regarder. C'est vrai que c'est. Moi, je découvre beaucoup de choses dans cette émission. Tu voulais la parole rapidement parce que le temps tourne,
juste,
les amis.
Je voulais pas ramener le débat sur Amnesty, mais on peut dire que quand même sur la population française, il y a quand même un œil, je trouve pas mes mots là, un œil positif pour aider les Afghans à venir en France, puisque Amnesty a lancé une pétition sur l'accueil pour demander des visas pour les femmes afghanes surtout et les Afghans. 148 000 signatures, et quand on voit le résultat et l'empressement qu'a mis le gouvernement français à réaliser ça, eh bien on est extrêmement déçus de cet accueil.
Vas-y Massouma, et après Jean voulait aussi intervenir, et il va falloir songer à terminer parce que nous avons un peu dépassé déjà. Vas-y Massouma.
Brièvement, je voudrais indiquer quelque chose parce que cette demande-là, nous avons effectuée au mois de janvier de l'année 2024, et juste qu'à ce moment, il n'y a aucune réponse de la part de l'ambassade en France. Et puis, actuellement, la situation d'Abiba en Iran est vraiment catastrophique. C'est parce qu'il n'a pas des moyens pour trouver un endroit sauve pour elle-même.
Sécuriser
le logement, oui. Exactement. Et de plus, un jour, elle a été frappée par les inconnus lorsqu'elle était assise dans un parc. Et je ne sais pas c'était qui. Et bah, du coup, le gouvernement français est un gouvernement humanitaire, et je prie les autorités françaises d'aider les femmes afghanes bloquées dans le deuxième pays dans la même situation.
Oui, merci.
Puisse ton message être entendu.
Oui. Jean.
Donc effectivement, ce qui nous rassemble ici, c'est l'exigence de visa sans délai. Parce que tout ce qui a été dit, toutes les difficultés, eh bien, c'est un parcours du combattant impossible pour ces femmes afghanes. Donc, visa sans délai, telle est la revendication essentielle qui doit faire l'unité de l'ensemble des organisations qui se réclament de la défense des intérêts des travailleurs et de la démocratie.
tout à fait. On termine sur ces paroles. On vous remercie. Merci à chacun. Et puis.
Merci à vous.
Merci. Et donc, on retrouvait l'émission sur rcn-radio.org, le podcast, et sur la page YouTube de RCN 90.7. C'était Paroles de paix. Merci.